Rendez-vous avec vous, un temps d'antenne animé par Cathy Vanel, qui aime se balader et vous rencontrer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais oui, ils ont des ailes pour nous emmener loin sur les canaux, les rivières et les fleuves et nous faire découvrir les richesses des régions que l'on traverse. Embarquement immédiat avec Catherine Quelch, une burgienne à la retraite qui, avec son mari, passe une partie de l'année sur leur bateau à moteur de 8,70 m de long et de 3,30 m de large. Bonjour Catherine.
Bonjour Cathy.
Alors, avec de telles dimensions, votre bateau que vous avez baptisé
Tiplouf,
c'est comme un petit appartement flottant.
Absolument, il est même plus grand que le premier studio qu'a occupé ma sœur lors de ses études.
Eh bien, c'est dire. Alors, expliquez-nous un petit peu comment sont agencées les pièces.
Eh bien, quand on arrive dans le bateau par l'entrée principale, si on peut dire, on descend quelques marches, on arrive dans un espèce de petit hall qui dessert une chambre, un cabinet de toilette qui comporte des WC et une douche. Et quand on va un tout petit peu plus loin, on arrive dans la pièce principale qui est la cuisine et le salon séjour.
Voilà, et vous pouvez coucher combien de personnes?
Alors, de manière optimale, on couche deux personnes dans la chambre, mais on peut coucher deux personnes dans le salon.
Et vous êtes bien équipé, vous avez un frigo, une table de cuisson.
On est extrêmement bien équipé, on a un frigo qui marche sur les batteries du bateau, qu'on relie au secteur quand on est dans des ports, et on a une gazinière de type anglais qui comporte, en plus du four et des plaques, un grill pour faire le bacon.
Ah ben c'est parfait. Alors, même s'il approche les 9 mètres de long, votre bateau ne nécessite aucun permis de navigation?
Si, bien sûr que si. En fait, quand on loue un bateau, on est dispensé de permis, mais quand on est propriétaire de son bateau, on est obligé d'avoir un permis. Donc, le permis qui concerne les voies fluviales est un permis relativement allégé, mais il y a un permis.
Il y a un permis. Et est-ce que la prise en main de ce genre de bateau est difficile?
Non, puisqu'à l'origine, c'était des bateaux qui étaient destinés à des amateurs pour passer juste une semaine. Et donc, il fallait que ce soit extrêmement simple.
Parfois, même quand on a de l'expérience, on peut se retrouver en difficulté, comme cela vous est arrivé une fois, à cause, je crois, d'un vent violent à la sortie d'une écluse.
Oui, absolument. C'est une des anecdotes principales de nos voyages. On était à ce moment-là dans le canal du Midi, aux alentours de Castelnaudary, et un vent extrêmement violent nous empêchait à la fois de sortir de l'écluse, et quand nous avons enfin réussi à sortir de l'écluse, nous a fait tourner en rond sans pouvoir diriger le bateau de façon commode. Donc j'avais beaucoup de chance d'avoir un capitaine qui ne perdait pas ses nerfs.
Oui. Bon, vous vous en êtes sorti quand même. Vous avez acheté Tiplouf d'occasion en 2010. C'est un bateau à fond plat. Alors, vous ne pouvez pas naviguer en mer?
Non, il n'est pas adapté du tout à de la navigation maritime. C'est des bateaux qui ont une prise au vent terrible et qui sont pas très manœuvrables s'il y a de la vague ou s'il y a du vent.
Donc, vous restez en fait sur les canaux, les rivières et les fleuves?
Absolument.
Voilà. Donc, vous ne prenez pas la mer, vous restez sur les voies d'eau intérieures. Est-ce que vous êtes resté en France ou est-ce que vous avez été un peu à l'étranger?
Alors, pour ce qui nous concerne, on n'est resté que en France.
Et vous avez l'intention un jour de...
J'aurais beaucoup aimé aller en Belgique et en Hollande, mais je ne pense pas que ça se fera.
Ah, c'est dommage. En France, vous avez circulé dans quelle région?
On a à peu près circulé partout en France à l'heure d'aujourd'hui, en partant du principe que nous n'attribuions aucun port d'attache à notre bateau et que chaque année était le prolongement de l'année précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais revenu théoriquement sur nos pas.
D'accord. Donc en fait, vous avez fait quoi? Vous avez fait le canal entre deux mers.
Oui, qui est beaucoup plus connu pour être le canal du Midi et le canal latéral de la Garonne,
voilà.
Après, bon, on est remonté, on a remonté l'axe du Rhône, de la Saône. On est remonté jusqu'à Paris par le canal latéral de la Loire, le canal du Loing, le canal de Briard. Je ne les ai pas cités dans l'ordre, mais ça ne fait rien.
C'est pas grave.
L'année suivante, on est repassé sur le canal du Nivernais. On est allé aussi à Paris. On est allé jusqu'en baie de Somme, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Donc là, on a approché la mer. Ensuite, on a retraversé complètement la France d'ouest en est pour rejoindre le bassin est et aller jusqu'à Sarreguemines, c'est-à-dire jusqu'à la frontière franco-allemande. Et ensuite, on est redescendu par l'axe canal des Vosges. Voilà. Donc, on a fait le tour de France. Il nous manque un ou deux cours célèbres. Le plus célèbre qu'on n'a pas fait, c'est le canal de Bourgogne.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la navigation fluviale ?
Alors, beaucoup de choses, mais ce qui me plaît essentiellement à moi, c'est le nomadisme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, avec ce moyen de transport, aller de ville en ville, rester le temps qui nous plaît, à l'endroit qui nous plaît. On a des possibilités, même éventuellement, si on n'a pas envie de rencontrer d'autres êtres humains, de s'amarrer en sauvage et de rester où on veut sur un canal, par exemple. Donc ça offre plein de possibilités, on peut rester une demi-journée quelque part ou on peut rester un mois quelque part et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligations.
La proximité avec la nature, ça vous plaît aussi ?
Ah bien sûr, bien sûr. On a la chance quand on fait ce genre d'activité de voir différemment de ce qu'on voit d'une voiture ou de ce qu'on voit d'abord parce qu'on est très très lent, on est à peu près à la vitesse d'un bon marcheur.
8 km/h maximum ?
Oui, mais nous, on est plus près de 6 que de 8. Oui. Donc, on est lent, on est relativement silencieux. Alors, c'est oui et non, on entend quand même le bruit du moteur sur le bateau, mais selon si on arrive sous le vent, par exemple, les animaux ne nous captent pas forcément. Mmh. Donc, on peut observer la faune.
La flore,
tout ce qu'il y a autour. En plus, comme on a eu la chance de naviguer sur des périodes relativement longues, on a vu beaucoup de choses.
Oui, et vous naviguez parfois pendant combien de temps d'affilée ?
Alors, notre objectif, c'était de naviguer à peu près toute la saison navigable. C'est-à-dire, pour nous, c'était en gros du mois d'avril au mois de novembre. Sachant que le mois d'avril, on est devenu un peu frileux. Il faisait quelquefois très très froid dans le bateau le matin. Ouais. On a eu des réveils à 4 degrés.
Oh là là, j'espère que vous aviez une bonne couette.
Oui, et puis il faut sauter rapidos dans les chaussettes, parce que sinon c'est un peu difficile. On avait opté les deux dernières années pour un départ un petit peu plus tardif au mois de mai. Et on va comme ça jusqu'à à peu près la fin de la saison, qui est généralement le mois de novembre.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas la seule à apprécier le tourisme fluvial qui fait de plus en plus d'adeptes. Je vous propose d'écouter un petit montage que j'ai réalisé à partir du témoignage d'une jeune femme en balade avec sa famille et ses amis sur le canal du Midi. Je pense que ça va vous rappeler quelques souvenirs, Catherine. Finalement, on est parti de Carcassonne en direction de Homps. Et là, on est à notre première écluse. Donc la porte est en train de s'ouvrir. Moi, je tiens la corde à l'avant. Ma copine tient la corde à l'arrière. Mon mari est dehors. Et les enfants sont en train de prendre leur goûter. On vient de passer le pont canal de Fresquel et là on va descendre plusieurs écluses à la suite, donc je vais remonter sur le bateau. On s'est arrêté avant une écluse pour déjeuner. On va descendre du bateau et on va aller voir les chevaux qui sont en bas. La vie au bord du canal, c'est aussi ça, voir les cygnes qui couvent leurs œufs. Petit arrêt à Trèbes. Donc là, en fait, on a le bateau qui est arrêté juste devant les terrasses de café. Donc c'est assez sympa quand même, la vie sur le canal. Hein. Limite, on fait 3 pas, on peut aller se poser à table, quoi. C'est plutôt cool. Et oui, c'est plutôt cool. Et ce n'est pas Catherine Quelch, mon invitée d'aujourd'hui, qui va nous dire le contraire. Le canal du Midi qui va de Toulouse à Sète, c'est le premier canal que vous avez parcouru avec votre mari. Je crois que c'était en 2011-2012. Vous vous souvenez de votre premier passage d'écluse?
Alors, le tout premier, peut-être pas, parce que j'avais eu la chance de faire déjà un petit peu de bateau avant, donc j'avais déjà vu le fonctionnement d'une écluse. Par contre, ce qui était très émouvant et très frappant, c'était d'être dans notre propre bateau, d'y vivre, et d'y vivre un peu à long terme, c'est-à-dire pas seulement une semaine de location, comme quand on fait ça en dilettante, mais de penser qu'on était parti, qu'on avait largué les amarres, et qu'on allait rester un certain temps en navigation. Après, j'ai eu la chance, vraiment la chance, qu'à cette époque-là, sur le canal du Midi, ils n'avaient pas encore abattu les platanes.
Oui, d'accord, j'en ai entendu parler.
Et donc, on a eu beaucoup de chance, parce que c'était magnifique, il y avait encore cette voûte d'arbres mémorable, qui était une splendeur absolue, on aurait dit une cathédrale végétale. Oui. Et oui, je garde un très très bon souvenir, bien sûr, de cette période-là.
Je crois qu'il y a 63 écluses sur le canal du Midi, ça en fait un bon paquet. Est-ce qu'elles sont toutes automatiques ou on peut voir encore quelques éclusiers?
Alors, à l'époque où nous naviguions, elles avaient la chance, je dirais, d'avoir encore des éclusiers. Dieu merci d'ailleurs, parce que la problématique du canal du Midi, c'est qu'il y a tout le temps du vent. Et que quand vous êtes par exemple à Carcassonne, la capitaine du port vous dit, c'est simple, à Carcassonne, il y a 300 jours de vent. Donc c'est des circonstances qui rendent la navigation aussi plus compliquée.
C'est sur le canal du Midi que vous avez découvert ces ouvrages d'art impressionnants que sont les ponts-canal. Comme le pont-canal qui a été évoqué, là, le pont-canal du Fresquel. Alors, c'est quoi un pont-canal?
Alors, un pont-canal, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un pont qui contient de l'eau. Donc, on est en navigation sur un pont et on peut, par exemple, croiser une autre rivière ou un autre fleuve. Alors, moi, le Fresquel m'a pas tant impressionné, encore que si, parce que c'était le premier que je voyais. Mais par contre, il y en a un aussi qui se trouve à Moissac, qui s'appelle le pont du Cacor, qui est un ouvrage absolument magnifique et qui surplombe le Tarn.
Les jours de navigation, en général, vous parcourez combien de distance?
Alors, très très peu, puisque comme je vous l'ai indiqué avant, on va doucement. Donc, je dirais que les bons jours, on doit faire une trentaine de kilomètres, je pense. On navigue à peu près 5 heures. Et on va doucement, on est des gens prudents, donc quand il pleut, on s'arrête, pour pas glisser, pour pas risquer d'accident. Donc quand il pleut, c'est jour pâtisserie à bord. Et on évite de prendre des risques si les conditions météo sont pas bonnes.
Voilà, et je crois que vous avez le droit de naviguer du lever au coucher du soleil.
Alors, c'est un petit peu vrai, mais pas tout à fait vrai. Théoriquement, oui. En vrai, il y a souvent des horaires imposés par les fonctionnements des écluses. C'est-à-dire que même lorsque les écluses sont en fonctionnement automatique, elles sont stoppées toutes les nuits et on n'a accès aux écluses que de 9h à 18h, par exemple, avec souvent un arrêt entre midi et 2 ou entre midi et 13h. Donc, en fait, on fonctionne aussi au gré des réglementations diverses et variées du lieu où on se trouve. Et il n'y a pas un endroit où c'est les mêmes horaires.
Ah bon, c'est pas facile. Lorsque vous faites escale, vous stationnez où?
Alors, parce que nous sommes des gens plutôt vieillissants et prudents, on stationne généralement dans des ports.
D'accord.
C'est plus facile, on a accès à des pontons qui sont des pontons adaptés pour monter et descendre du bateau. Il y a des taquets où on peut attacher le bateau. Lorsqu'on s'arrête en sauvage, ce qu'on aime faire malgré tout de temps en temps, il faut descendre du bateau sur un bord qu'on qualifierait sur la route de non stabilisé.
D'accord.
Et il faut planter des piquets, comme un piquet de tente, ou enfin un peu plus dimensionné que le piquet de tente, mais sur lequel on amarre le bateau, avec le risque que ou le piquet ne soit pas suffisamment bien planté et qu'il s'arrache tout seul, ou enfin bon, c'est un peu plus aventureux, on va dire.
Le tourisme fluvial, c'est à la fois la vie à bord et la vie hors du bateau. Alors, que faites-vous lorsque vous êtes sur le bateau ?
Alors, lorsque je suis sur le bateau et que nous naviguons, généralement, mon mari pilote le bateau et moi, je suis préposée aux manœuvres.
Bon, vous ne faites pas que ça aussi. Comme vous êtes une ancienne photographe, je crois que vous prenez des photos.
J'en prends pas tant que ça. J'ai beaucoup ralenti ma production photographique. Je préfère maintenant de loin regarder que prendre des photos. Donc, je préfère maintenant de loin essayer de découvrir le martin pêcheur qui est dans un arbre plutôt que d'avoir l'appareil vissé à l'œil et pas réussir à faire des photos correctes.
Quand vous mettez pied à terre, là aussi, ce ne sont pas les activités qui manquent.
Il y a déjà le ravitaillement, chère madame.
D'accord.
Parce que vous pensez bien qu'on est quand même obligé de se nourrir et d'aller régulièrement acheter ce qu'il faut pour. Alors là aussi, c'est toute une stratégie, parce que selon à quel endroit on est, il peut y avoir des ravitaillements très souvent, comme il peut ne pas y en avoir pendant presque une semaine. Donc ça nécessite d'anticiper un petit peu, oui, ce que va être le trajet. Alors on n'anticipe pas tout, quelquefois il peut y avoir des pannes ou il peut y avoir des difficultés. Mais d'anticiper le trajet, d'anticiper les besoins qu'on va avoir, de façon à ne pas se trouver à court de nourriture, à court d'eau, oui, à court de choses dont on a besoin quotidiennement.
Oui, alors, hormis le ravitaillement, je crois que vous vous promenez à vélo aussi sur les chemins de halage.
C'est une occupation très agréable.
Oui.
Les chemins de halage ont l'avantage, par rapport à la plupart des voies cyclables, d'être à peu près plat. Ce qui fait que même quelqu'un qui n'est pas très sportif, je n'ai aucune prétention dans ce domaine, peut se régaler, voir de belles choses encore différemment. Puisque du bord de l'eau ou de l'eau, on ne distingue pas les choses de la même façon.
Et quelles sont les villes ou les villages qui vous ont le plus marqué ?
Il y en a tellement.
Donnez-nous quelques
Alors,
exemples.
Dans les très grandes villes, je pense que vraiment Toulouse, ça a été ma première grande, grande découverte. C'est une ville magnifique, avec de très belles architectures, avec une vie universitaire très présente et avec beaucoup d'animation partout. Beaucoup plus au nord, j'ai adoré bien sûr passer à Paris, c'était exceptionnel d'être à Paris chez soi.
Il y a un port aussi, le port de l'Arsenal.
Il y a deux ports à Paris, Il y a le port de l'Arsenal qui est un très grand port qui contient, dans mon souvenir, entre 300 et 400 bateaux, mmh, et un petit port à La Villette, qui est un port beaucoup plus restreint, où théoriquement on a le droit de rester que 48 heures, mais où on a eu la chance, nous, de pouvoir séjourner plus longtemps. Et là, on est juste au pied du parc de la Villette, de la Géode, de tout.
Oh, c'est magnifique.
Oui, c'est très, très bien.
Il y a eu aussi Amiens, je crois. Alors, que vous avez apprécié.
Amiens, c'est une de mes villes de prédilection, mais elle est chargée d'histoire. C'est une jolie ville. Il y a beaucoup de choses à y découvrir. Donc, j'ai oublié de mentionner que dans mes occupations régulières hors bateau, il y a quand même toute la visite des musées, des bâtiments, etc., qui peuvent se croisés sur notre chemin. Après, j'ai adoré Besançon, mais dans des beaucoup plus petites villes que ça, je suis resté quelques semaines dans un endroit hautement improbable qui s'appelle Capy, sur la Somme, qui était simplement un endroit campagnard, joli, et où on pouvait justement faire des promenades à pied ou en vélo, aller se ravitailler dans une ferme qui fournissait des légumes tout frais. Enfin, voilà, donc je ne suis pas non plus forcément fan que des villes.
Votre bateau, il est amarré à quel endroit en ce moment ?
Alors, en ce moment, il est dans la région, il est, oui, à Louhan. C'est une ville que je trouve incroyablement dynamique. On a vraiment un accueil chaleureux de la part des commerçants, des habitants. Le coin est très très beau. Louhan se trouve sur une rivière qui s'appelle la Seille, qui est une rivière qui, entre autres, a une espèce protégée, une variété de petits hérons nains qui s'appellent des blongiaux. Je trouve que c'est un endroit extrêmement agréable et je conseille à tous les Bressans d'aller voir. C'est pas si loin, c'est à peine une heure de voiture.
Eh bien, j'espère que nous aurons tous l'occasion d'aller faire un petit tour là-bas. Merci Catherine Quelch de nous avoir fait partager votre passion pour la navigation fluviale.
C'est moi qui vous remercie, c'était un entretien fort agréable.
Petite question alors, pour terminer, vous savez où il se trouve le plus grand ascenseur à bateau du monde ?
Oui.
Ah. Alors dites-nous.
Alors je pense que c'est celui d'Artsvillers.
C'est celui qui se trouve en Belgique et il permet à des bateaux de franchir une dénivellation de 73 mètres.
Alors c'est vrai qu'il est plus grand.
J'ai gagné.
Le français qui se trouve en Alsace, lui ne franchit que de mémoire 46 mètres.
D'accord. Eh bien voilà, rendez-vous avec vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.